L'échappée normande, by Tendance Ouest, le podcast des amoureux du Tour.
Bienvenue dans ce troisième épisode de l'échappée normande. Lui est un amoureux du Tour, c'est sûr. Thierry Gouvenou est le directeur de course de la Grande Boucle. Il trace chaque année le profil des différentes étapes. Et c'est donc à lui que toute la Normandie doit le retour du peloton dans la région. Nous allons évidemment revenir avec lui sur ce rôle, mais d'abord laissons Thierry Gouvenou se présenter.
Alors, je suis né en 1969 à Vire, dans le Calvados. Vire même, ouais, à la clinique de Vire. Alors, j'habitais pas à Vire à ce moment-là, j'habitais sur Tingebray. Après, j'habitais à Flers et je suis revenu à Vire où, à l'âge de 7-8 ans. Alors, moi, je me sens vraiment bas normand, hein, en étant originaire de Vire, en ayant vécu dans cette région. J'ai aussi ma famille dans le sud de Manche et clairement, je me revendique comme bas normand et attaché à cette terre du bocage.
Si certains cyclistes ont pratiqué d'autres sports durant leur jeunesse, lui, ce n'est pas son cas.
Aussi loin que je me souvienne, et quand je regarde les photos de famille, à chaque fois, on me voit toujours avec un vélo dès l'âge de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et je pense que ça a toujours été mon jouet favori. Et puis après, vers l'âge de 7-8 ans, mon père, qui était aussi passionné de vélo, s'est décidé à acheter un magasin de vélo à Vire.
Durant sa carrière amateur, Thierry Gouvenou touche au cyclocross, à la piste, à la route et décroche déjà plusieurs succès.
Ce qui a marqué ma carrière, par exemple, c'est des victoires sur le Tour de Normandie à Saint-Hilaire-de-Harcouët. Ça m'a vraiment fait passer un cap. C'est des titres de régionaux en cyclocross, notamment ici à Hérouville-Saint-Clair. C'est pas mal de maillots de champion de Normandie sur la piste de Venoix. C'est plein de choses comme ça qui me reviennent en mémoire.
Il faut aussi dire que les routes vallonnées de son bocage étaient parfaites pour l'entraînement.
Alors moi, c'est la vallée de Brou, hein. Voilà, c'est entre Sœur-de-Val, Chérancey-le-Roussel, Gers, Gatmaux, Saint-Sever. Voilà, c'est mes coins où je m'entraînais le plus et où j'aime retourner encore maintenant quand j'ai l'occasion de venir dans la région.
Point d'orgue de son début de carrière, notre Virois remporte Paris-Roubaix chez les amateurs. De quoi lui ouvrir en grand les portes du monde professionnel et il ne rejoint pas n'importe quelle équipe.
Greg LeMond a gagné son dernier tour avec le maillot Z en 90, au mois de juillet. Et moi, je suis arrivé dans l'équipe en tant que stagiaire au mois d'août, fin août. Donc c'était vraiment encore l'euphorie dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'équipe Z faisait partie des grandes équipes mondiales. Hein. Il y avait Duclos Lassalle qui était capable de gagner Paris-Roubaix, il y avait Claverola, il y avait Colotti, plein de bons coureurs et des coureurs aussi internationaux comme Robert Millard qui était super fort en montagne. Donc oui, c'était une équipe de haut niveau. Je rejoignais vraiment le gratin des équipes professionnelles.
S'il participe en 1992 au Tour d'Italie, le Giro, le Normand se fixe désormais un tout nouvel objectif.
Quand j'étais amateur, je ne pensais pas forcément au Tour de France, mais une fois que je suis devenu professionnel, j'ai pensé au Tour de France. Et puis, ben encore un coup de chance quelque part, j'étais encore dans une bonne équipe, j'arrive au Tour de France dans l'équipe GAN. Dès le premier jour, on prend le maillot jaune avec Chris Bormann. Donc mon entrée dans le Tour de France a été quand même assez rapide et quelque part, ça m'a aidé à ne pas me faire avaler quelque part par la grandeur de la course, parce qu'il fallait dès le premier jour défendre le maillot jaune. Dans le peloton, c'est plus facile lorsqu'on est équipé du maillot jaune, parce qu'on nous laisse travailler, on nous laisse aller en tête de peloton. Et c'était certainement la meilleure chose qui pouvait m'arriver pour découvrir le Tour.
C'est en 1994 qu'il participe au premier de ses 7 Tours de France. Il est tout de suite marqué par la dimension de l'épreuve.
Je pense que lorsqu'on arrive sur la première étape qui était un prologue, c'était un contre-la-montre à Lille de 7 ou 8 km, on entre dans un monde complètement différent. Parce qu'il y a tellement de monde, ça fait tellement de bruit, il y a tellement de choses autour du Tour. On ne connaît rien lorsqu'on n'a pas fait le Tour de France quelque part. Même si on a fait le Giro avant, c'est tellement un monde à part, un saut complètement différent que ouais, ça fait drôle quand même, mais ça surmotive aussi quoi. On va aller chercher des forces qu'on n'imagine pas avoir en soi quoi.
Et dès sa première grande boucle, Thierry Gouvenou est chanceux, le peloton passe par chez lui. Une étape emmène les coureurs de Cherbourg à Rennes, alors forcément il essaye de se mettre en évidence.
Je me souviens à un moment donné très vite et on était sortis à une trentaine avec des vrais gros rouleurs, et puis derrière, bah bien sûr, ça, c'était trop, une trentaine c'était trop, et ça avait été contrôlé par l'équipe du maillot jaune. Et puis après, j'avais eu aussi le plaisir d'avoir un petit billet de sortie pour aller voir ma famille sur le bord de la route du côté de Villedieu-les-Poils. C'est des petits moments qui sont sympathiques. C'est des choses qui arrivent parce que les étapes étaient très longues, hein. Elles faisaient quasiment 260 km. Maintenant, ça arrive beaucoup moins ce genre de choses parce que les étapes sont plus courtes. J'étais allé voir Miguel Indurain. Je lui avais expliqué que ma famille m'attendait un peu plus loin. Je crois que ça l'a arrangé qu'on fasse un temps mort, que je puisse prendre un peu de champ pour aller voir saluer ma famille. Et pendant ce temps-là, le peloton était de nouveau au calme. et il pouvait attendre plus sereinement la fin d'étape.
Ouais, bah c'est vrai que ça, dès qu'on parle du Tour, dès qu'on parle de la famille, des enfants, il y a toujours de l'émotion. Et quand tout est réuni, ouais, c'est fort.
L'année suivante, le Normand termine hors délai et ne va pas au bout de l'épreuve, la seule fois de sa carrière d'ailleurs. Le Tour de France, c'est aussi ça.
Alors déjà, dans les semaines qui ont précédé le Tour, j'avais chuté assez sérieusement au Tour de Catalogne au mois de juin. Et clairement, je suis arrivé au Tour de France en ayant des séquelles de cette chute. Et j'ai jamais pu me remettre d'aplomb. Et j'ai traîné ma misère pendant toutes les étapes jusqu'au moment où j'étais éliminé à la Plagne. Ça a vraiment été une souffrance. Et lorsque j'ai abandonné à la Plagne, je me suis dit plus jamais je reviendrai sur cette course, c'est trop dur. Vous me reverrez plus jamais. Et puis, ça n'a pas été le cas.
Prenez le large avec l'Échappée Normande, le podcast de Tendance Ouest dédié au Tour de France.
Évidemment, il est déjà de retour l'année suivante, mais aussi en 1997. Surprise à peine croyable pour le coureur du Bocage, Vire est désigné pour être ville arrivée de la deuxième étape de la Grande Boucle.
C'était une grande surprise et puis de suite, un objectif, l'objectif quelque part de l'année. Par contre, à ce moment-là, j'étais arrivé dans l'équipe Big Mato Bervilliers. On n'avait pas encore notre sélection acquise des mois à l'avance. Il a fallu attendre la sélection de l'équipe et elle est intervenue très très tard. Je pense qu'elle est intervenue début juin. Et jusqu'au mois de juin, j'étais impatient de savoir si on allait pouvoir aller au Tour. Quelque part, lorsqu'on a annoncé cette sélection de l'équipe Big Mato-Bert au Tour de France, pour moi, c'est un peu comme si le jour où on va chercher son résultat au bac, quoi. La même sensation, quoi. C'est de l'impatience, le stress et la délivrance quand ça a été su. Mais parce que mentalement, j'étais vraiment dans une année où il n'y avait que ça qui comptait quelque part. Le fait d'aller sur le Tour de France qui partait en Normandie de Rouen, et qui après avait une étape sur Vire, je voulais pour rien au monde louper cette journée-là.
Une étape et une échappée mythique dont Thierry Gouvenou entend encore parler à chaque fois qu'il pose le pied en Normandie. C'est avec une certaine émotion qu'il revient sur cette journée.
Le D-Day, le jour J. Voilà, c'est quelque part la journée que j'attends depuis plusieurs mois qui va arriver. Je sais que je suis bien physiquement, que je suis au top. Au départ, on était à Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime. Dès les premiers kilomètres, ou même avant le départ, des Italiens sont venus me voir en me disant « Ah, il paraît que tu es de la région, explique-nous le final et tout. » Et alors, c'était des grands sprinteurs, et j'ai compris que la tâche allait être compliquée parce qu'ils avaient vraiment envie de finir au sprint. Et je me suis dit « Oula, c'est pas bon. S'ils savent tous que je suis de la région, ils vont me pointer toute la journée et ça va être compliqué. » L'étape est longue, donc je patiente quand même avant d'attaquer, je patiente. Et puis au bout de 120-130 kilomètres, il y a un sprint. Je suis le sprint sans le faire vraiment à fond et derrière je contre avec l'espoir que le peloton se relève après le sprint, sauf qu'à ce moment-là, il y a trois coureurs qui me suivent, trois anciens maillots jaunes, donc c'est vraiment une échappée quelque part de costaud et ça roule très 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 fort et l'équipe de Cipollini qui a le maillot jaune nous laisse pas partir, il nous laisse 20-30 secondes et on roule à fond pendant 30 kilomètres. Et je m'aperçois qu'on ne va jamais pouvoir creuser parce qu'avec ces trois anciens maillots jaunes qui sont là, ça fait trop de coureurs potentiellement de haut niveau. Je commence à relayer un petit peu moins fort. J'attends que le peloton se rapproche et au moment où le peloton est vraiment très proche, à 50-100 mètres, je réattaque et je me retrouve seul à l'avant. Et là, je pars pour un long raid solitaire qui a duré au moins 120-130 kilomètres. Mais c'était exceptionnel parce que traverser la Normandie seul vers sa ville natale, c'est encore quelque chose qui aujourd'hui m'émeut un peu. Mais c'est des moments qui sont quand même exceptionnels. Mais là, il y avait Cipollini qui avait décidé qu'il allait contrôler l'étape, ils m'ont laissé 4 minutes, et puis au final, ils sont venus me rechercher, et puis c'est vrai qu'avec au bout de 120 km d'échappée, ça commence à faire bien mal aux jambes. Et puis lui s'impose avec le maillot jaune à Vire. Alors pour Vire, c'était exceptionnel d'avoir un maillot jaune qui s'impose sur son étape. Pour moi, le final a été beaucoup plus dur parce qu'une fois rejoint, j'ai même fini par craquer. Je crois que c'est une des seules étapes où j'ai fini avec des crampes au Tour de France parce que j'avais vraiment tout donné. Tout donné. Mais je pense que les gens se souviennent quand même de cette volonté de se mettre en avant.
Et si le peloton ne l'avait pas pourchassé avec autant de volonté, Thierry Gouvenou y pense parfois.
Ouais, c'était trop tôt dans le Tour. C'était la troisième étape, même la deuxième, parce que le prologue, ça compte pas comme une étape. C'était trop tôt. Et quelques jours après, sur le même style d'étape, il y a Cédric Vasseur qui arrive à sortir du peloton et qui, lui, on lui laisse 8-10 minutes et qui va gagner l'étape et en plus prend le maillot jaune. À cette époque-là, il y avait moyen de faire des choses comme ça où on pouvait aller chercher une étape, un maillot jaune. Pour moi, c'était pas le bon jour. C'était le bon jour parce que c'était chez moi, mais c'était pas le bon jour parce que c'était trop tôt dans le Tour de France.
Et est-ce qu'il repense encore à cette étape si belle mais si cruelle ?
Ouais, ouais, bah oui. Dans mes rêves les plus doux, encore, je me vois arriver triomphalement chez moi. Avec le peloton juste à mes fesses et puis qui m'a pas rattrapé. C'est pas la réalité, malheureusement.
Autre aspect marquant de la carrière de Thierry Gouvenou, son appétence pour l'une des courses les plus dures au monde, l'enfer du Nord Paris-Roubaix.
Oui, j'ai toujours eu une relation spéciale donc, avec Paris-Roubaix, avec cette victoire en amateur. Après, le fait d'avoir accompagné aussi Gilbert Duclos-Lassalle lors de ses deux victoires sur Paris-Roubaix, où j'étais très proche de lui. En tant qu'équipier, donc ça a marqué ma carrière. Et puis derrière, j'avais déjà fait une belle performance en 98 où je fais 11e de Paris-Roubaix. Et puis j'arrive à Paris-Roubaix 2002. J'ai un début de saison où très chargé en course et puis d'un coup j'ai un gros coup de fatigue dès le mois de mars. Et je me ressaisis, je refais un plan d'entraînement très spécial. Je fais attention à tout avec cet objectif de faire un grand Paris-Roubaix parce que je sens que c'est là aussi ma fin de carrière. Et je sens la forme revenir au bon moment et j'arrive à Paris-Roubaix dans une super forme. Et dans le final, je suis dans le coup. Et même au carrefour de l'Arbre, à 10 km de l'arrivée, je sors du groupe de contre-attaque et malheureusement, je crève à 7-8 km de l'arrivée. Sinon, je partais pour aller chercher une place de quatrième. Donc j'étais vraiment dans une journée exceptionnelle sur une course qui aura marqué ma carrière. Et quelque part, quand je suis sorti du vélodrome, j'ai su que la boucle était bouclée. Et que ce serait quasiment la fin. Quoi.
Et si cette relation entre le Virois Thierry Gouvenou et Paris-Roubaix avait une explication ?
C'est le granit. Il y a beaucoup de pavés en granit. Et Vire, le Bocal, c'est vraiment la région du granit. Et il y a beaucoup de tailleurs de pierre, etc. Où il y avait beaucoup, il y a peut-être certainement moins. Ouais, il y a ce côté, cet attrait du pavé. Quoi. C'est vrai que par chez nous, autour de Vire, on peut encore trouver des chemins où on retrouve vraiment de la pierre en granit, des pavés, alors mal taillés. Mais qui ressemble drôlement au pavé de Paris-Roubaix.
Ils ont fait l'histoire de la Grande Boucle. Écoutez-les dans L'Échappée Normande, le podcast Tendance Ouest, spécial tour.
Thierry Gouvenou prend donc sa retraite en 2002, mais pas question de prendre une année sabbatique. Il se forme dans les métiers du commerce et en croisant le peloton du Tour à Pau, il rencontre Jean-Marie Leblanc, ancien patron de l'épreuve. Ce dernier lui propose en 2004 de rejoindre Amaury Sport Organisation, la société organisatrice du Tour de France. Le début d'une longue histoire.
Alors au début, on est adjoint au responsable, j'ai envie de dire. Mais on va sur différentes courses, des courses féminines, des courses à l'étranger, etc. Et on commence à apprendre le métier d'organisateur de courses cyclistes. Et lors des courses, on est au rôle de régulateur. C'est-à-dire qu'on est quelque part les gendarmes de la circulation interne à la course. On fait attention au mouvement des véhicules, que ce soit des directeurs sportifs, des médias, de la télévision, des invités. Et on est là pour faire en sorte que la course se déroule en respectant les règles sportives et de sécurité.
Depuis 2014, c'est lui qui trace le parcours du Tour de France. Christian Prudhomme, son patron, lui donne les villes arrivées et départs. Et ensuite, c'est presque carte blanche pour offrir du spectacle. Mais pour ça, il faut aller sur le terrain.
Oui, ça va dépendre des régions. Par exemple, les Alpes, les Pyrénées. Bon, j'ai pas besoin d'y aller beaucoup parce que ça a été couru en long, en large. Mais il y a des régions que je connais peut-être un petit peu moins bien ou que j'ai envie de découvrir plus profondément. Et là, je prends ma voiture, les cartes, maintenant aussi les applications qu'utilisent les cyclistes. Et je tourne et je regarde ce qui est réalisable parce qu'il y a des contraintes de sécurité, de largeur de route, d'état de la route. Voilà, je me fais un aperçu global de la région et je vais aller tracer sur carte au bureau des parcours ou à partir maintenant aussi de Google Maps ou des choses comme ça, des tracés. Et après, on retourne valider l'étape en prenant des notes, tous les ronds-points, tous les terre-pleins, tous les dodanes. On met les sprints, on met les grimpeurs, on met les zones de ravitaillement. Donc c'est tout le travail sportif autour de l'étape.
C'est donc à Thierry Gouvenou que l'on doit notamment cette nouvelle arrivée à Vire avec une étape qui s'élancera depuis Bayeux. Là, il connaissait bien les routes sans se déplacer.
Je l'ai fait déjà 1000 fois dans ma tête avant d'aller sur le terrain. Sur cette étape, notamment entre Bayeux et Vire, j'ai voulu quelque chose de très sportif. Et je pense qu'on a l'étape de plaine, parce que la Normandie c'est considéré comme la plaine, qui va apporter le plus de dénivelé depuis toujours.
Une étape qui met en avant sa Normandie, avant tout.
C'est vrai qu'on aurait pu se dire, départ dans le Calvados, arrivée dans le Calvados, on va faire les plages du débarquement. Alors, historiquement, ça a été très valable pour le tourisme aussi, mais on a voulu mettre en avant vraiment le sport et il fallait aller dans les collines. Et j'espère qu'on va le réussir notre coup. Si on avait un petit rayon de soleil en Suisse normande, les gens se rendraient bien compte que c'est joli aussi. Après là, on en ira du côté de Mortain. De Mortain aussi, il y a quelque chose historiquement important. Mais aussi, on a la vue sur le Mont-Saint-Michel, des collines autour de Mortain, Saint-Michel-de-Montjoie. Donc on va mettre aussi une autre Normandie en avant, mais c'est certainement la plus belle.
Comme pour chasser ces vieux démons, le Virois propose une étape bien casse-pattes qui se termine en haut d'une terrible côte.
Quelque part, je voulais éviter ce qui avait lieu en 97, un sprint massif. Je pense qu'on a autre chose à proposer entre voilà, le Bessin, la Suisse normande, le bocage virois. On a autre chose à proposer qu'un sprint massif à l'arrivée.
Alors elle est comment cette côte finale?
Oui, je la connaissais, mais surtout en voiture, j'évite de la monter à vélo. Il y a quand même 14%. Bon, ça commence à piquer un peu.
Le directeur de course se prête au jeu des pronostics concernant celui qui aura la joie de lever les bras à Vire.
On aura déjà le contre-la-montre où ils vont être obligés d'être très concentrés, les grands leaders, hein, pour cette journée à Caen là, qui va être importante pour le classement général. Et le lendemain, il y a deux scénarios pour moi. Il y a une étape complètement débridée où il va y avoir beaucoup d'attaques et les plus forts vont finir par s'échapper parce que l'équipe leader du Tour de France va laisser partir quelque part une échappée. Dans ce cas-là, à l'intérieur de cette échappée, il faut être extrêmement fort dans le final. Et là, on a des vraies cartouches avec des coureurs comme Lapeyra, comme Cosnefroy, Kevin Vauclin, que des Normands. Là, on aurait vraiment des vrais bons coureurs pour pouvoir jouer la victoire d'étape. Même Guillaume Martin pourrait en profiter aussi, parce que je pense qu'il va prendre un petit peu de temps sur le chrono. Ou alors, l'autre scénario, c'est que on a une équipe qui veut vraiment montrer qu'elle est la plus forte. Et elle contrôle la course. Et là, dans le final, sur les deux dernières côtes, on aura les meilleurs qui vont s'exprimer. Et si on a un groupé dans la dernière côte, je vois personne pouvoir battre Pogacar sur cette arrivée à Vire, qui est vraiment le type d'effort qu'il affectionne.
Des années et des années sans voir le peloton du Tour de France en Normandie. On devait lui poser la question, nous aussi. Mais pourquoi ?
Ouais. J'ai souvent dû répondre à des questions. Quand est-ce que le Tour revient ? Quand est-ce que le Tour revient ? Et on a toujours dit, avec Christian Prudhomme, qu'on reviendrait en Normandie avec des étapes vraiment probantes sportivement. Et ça va être le cas. On aura un super final à Rouen, un contre-la-montre individuel à Caen qui va vraiment compter pour le classement général. Et puis une vraie étape de baroudeur puncher à Vire. Donc on va avoir 3 jours de sport vraiment intense. Ça va compenser le fait qu'on ne soit pas venu pendant plusieurs années.
Mais on peut compter sur Thierry Gouvenou pour faire du lobbying pro-normand auprès de Christian Prudhomme.
Peut-être qu'avec ces 3 étapes qu'on a voulu sportivement probante, peut-être qu'après il va se dire « Ah, le passage en Normandie devient indispensable ».
D'ailleurs, notre Normand compte bien garder son rôle et ne se sent pas encore proche de la retraite.
Les années passent vite, hein. Ça fait déjà 12 ans maintenant que je trace les parcours du Tour de France. J'ai toujours la motivation, bon, ça prend du temps, hein. Ça prend aussi beaucoup sur la vie familiale. C'est quand même pas commun d'avoir un travail comme ça qui est aussi proche de sa passion. Il faut quand même en profiter.
Alors, on va terminer ce podcast par un message d'espoir. Thierry Gouvenou, est-ce que la Normandie pourra attendre moins longtemps la prochaine fois avant que le peloton ne revienne ?
Oui, clairement. Ça, avant ma retraite, c'est sûr.
Le rendez-vous est pris. Notons que le Tour de France 2027 s'élancera de Grande-Bretagne. Peut-être est-ce un espoir pour toute la région, seul l'avenir nous le dira. La semaine prochaine, nous allons remonter le temps, direction les années 70, et un cyclisme, disons, plus folklorique. Notre prochain invité se nomme Raymond Martin, un Ornais qui a tout de même terminé sur le podium d'une édition du Tour de France.
Échappez-vous avec notre podcast spécial Tour de France.